Bienvenue sur RCC. Ce soir, c'est un peu spécial parce que comme c'est la dernière, on a décidé de pas mettre de générique.
Exactement.
On va le chanter après. On le chante nous après.
Bonsoir, bienvenue en direct. Il est 18h, passé de quelques minutes et c'est la dernière de la saison de Foot de Sport.
Eh oui,
générique bravo, a cappella, allez.
Voilà, c'est beau. Hein.
Générique
foot,
a cappella.
Foot de Sport.
Et puis ce soir pour la dernière, on a gâté tous nos auditeurs,
hein, alors, je veux dire. Les gars, on va y aller vite fait.
Oui, oui.
On rentre dans
attend,
le vif du sujet. Il nous attend, il a un avion, donc vite fait présentation. Nous avons en ligne Jean Gour, il va nous faire un petit débrief du Ladies Open. Ensuite, nous allons appeler
un autre Jean.
Jean Pounette hein, qui va revenir un peu sur le Sporting cette saison, lui qui a fait tous les matchs en direct sur Facebook. Après, nous allons appeler Patrick Sandrogne pour le FC Valagne avec leur victoire ce week-end en Coupe de Corse, hein, vainqueur de la Coupe de Corse. Nous allons revenir sur le résultat de nos clubs corse, hein, Ligue 1, Ligue 2, National 1. La National 2 jouait pas. National 3 ne jouait pas. En R1, c'est fini. On pourra parler un peu, Jo.
Oui, bien sûr.
R2, R3, R4. Voilà, mes chers amis. Merci d'être fidèles à RCC.
Et
sans plus attendre,
on attaque
notre ami Jean. Jean, bonsoir.
Salut Jean.
Bonsoir, ça va?
Ouais. T'as vu, on est speed, hein. Par rapport à toi, on est speed, hein. T'as vu? On sait que t'es un avion, donc.
Je suis entre deux avions, là.
Ah.
Entre, t'es pas sur l'aile,
là. Singapour.
C'est
quoi
la
goutte? Il négocie pour l'année prochaine, il est allé voir des joueuses.
Alors, Jean, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, un petit débrief de, du Ladies, est-ce que tu en es content?
Qui a été une réussite, à mon avis,
oui,
Jean.
Oui, bah, écoutez, moi, sincèrement, je pense qu'on a réussi une belle opération. Je pense qu'on s'est bien préparé pour le faire. La météo est avec nous, les gens nous ont suivis, ça a été une très belle édition. J'étais d'ailleurs invité par ProEL, l'association des joueurs professionnels à Strasbourg, hier, où on nous avait invités aux 250 000 de Strasbourg pour nous réunir et quelque part aussi nous remercier pour le tournoi, puisque, vous le savez, on avait été lauréat. Voilà, ben, ta vie fait son chemin dans le monde professionnel du tennis. J'ai rencontré plein de joueuses qui étaient à Cali, plein d'arbitres qui étaient à Cali, et ils ont plein d'étoiles dans les yeux quand ils en parlent. Donc, écoutez, oui, effectivement, on a fait un beau tournoi 2023.
Alors, Jean, pour être passé un petit peu vous voir, et j'aime aussi le tennis, j'ai trouvé quand même en semaine, bon, peut-être que le temps a joué peut-être en votre faveur, et tant mieux, j'ai trouvé quand même il y avait un peu plus d'engouement que les autres années. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, ben, ça tenait d'abord parce qu'on est passé 40. Deuxièmement, on avait des matchs très intéressants, et le premier week-end avec deux wildcard Corse dans le tableau, c'était important, puisqu'on a des clubs qui sont venus me voir de toute la Corse. On avait une tente hospitality qui était merveilleuse, avec un bar géré par notre ami Jean-Pierre, avec une petite restauration, un food truck sympa. On s'était mis dans des dispositions les meilleures possibles pour accueillir le public, et ce public nous a suivi beaucoup, beaucoup, beaucoup le week-end, et c'était final avancé au dernier moment à 10h du matin. Vous avez vu, on avait réussi deux choses. Un, avancer la finale à 10h, et deux, j'étais inquiet parce qu'il pleuvait pas à 14h après. Et on a réussi à faire pleuvoir après. Donc, les mecs, ils pensaient qu'on était vraiment forts.
C'est le cas.
Effectivement, il y a eu de la fréquentation. Et effectivement, le bar a fonctionné, même si le but, c'est pas de gérer un bar. Mais ça a beaucoup tourné. Et les événements en parallèle avec les gros partenaires, les événements qu'on a fait ont énormément marché. Les partenaires sont contents et ont déjà envie de renouveler l'expérience avec nous.
Jean, justement, pour l'année prochaine, justement, donc l'édition 2024, est-ce que vous y travaillez déjà, et est-ce que tu peux nous dire si, je sais pas, on va rester en 40 000 $, est-ce que vous envisagez de monter un peu plus en dotation? Est-ce que vous avez déjà travaillé dessus?
Oui, alors, pour être clair, je suis pratiquement sûr qu'on sera à 40 000. Pourquoi? Parce qu'il faut que la fédération nous propose. Donc, il n'y a pas, aujourd'hui, il n'y a pas d'évolution sur le prize money, voilà, si le 40 000 est maintenu, donc par les instances internationales, on sera 40 000 plus âge. Je sais aussi qu'il y a des discussions au niveau international sur le plus âge. Pour être clair, le plus âge, ça veut dire qu'hébergement offert aux joueuses, ça donne plus de points dans les tournois, mais il y a des discussions pour savoir si tous les tournois devraient pas être plus âge, auquel cas les points se réalignent. Enfin, et voilà, il y a pas mal de discussions. Vous dire aussi que on a été contacté à l'issue du tournoi par la WTA. Voilà, pour être très clair. La WTA nous a contacté, souhaiterait faire un briefing avec vous sur le tournoi. Ils pensent que notre tournoi pourrait facilement devenir à $125,000 WTA, mais je vais être clair.
Ne brûlons pas les étapes.
Notre volonté, c'est d'organiser avec nos moyens, avec notre joli club, dans une région magnifique. Donc, on écoutera ce qu'on a à nous dire. Mais pour en avoir parlé avec la fédération, il n'est absolument pas dans les projets du tournoi d'aller si haut. Vous savez, notre budget, $40,000, c'est 4 fois que la soie et demi de prize money. Je vous laisse calculer. Donc, imaginez un 125 000, on passerait les 500 000. Donc, il n'en est pas question. Mais ça veut dire quand même une chose, ça veut dire que on a bien organisé. Et le site de Calvi, l'organisation qu'on met en place avec l'aide de tout le monde, est reconnu aujourd'hui. C'est un tournoi magnifique, reconnu par tout le monde. Et ben voilà, je crois qu'il faut aujourd'hui être content de ça avant tout, quoi.
Jean, selon toi, par rapport à l'édition 2023, tu penses qu'il y a encore des points améliorés pour l'événement 2024?
Alors moi, hier à Strasbourg, j'ai pris 50 photos de trucs que j'aimerais bien qu'on fasse. On sait les détails, hein. On va peut-être habiller les barrières, vous voyez, par exemple, avec des logos. J'aimerais bien qu'on ait une machine qui mesure la vitesse du service des joueuses, ainsi que le temps qui reste à jouer. On va réfléchir à la restauration aussi, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, beaucoup de monde passait, beaucoup de monde avait envie de rester sur place, donc il faut qu'on réfléchisse à cette qualité aussi. J'ai discuté avec des équipementiers aussi, quoi. Alors, non, je pense que l'idée, c'est de partir sur le même principe, en essayant de tout faire un petit peu mieux, tout ce qu'on a fait. C'est un énorme travail. Il faut savoir que nous, on construit un site pratiquement entièrement. D'ailleurs, tous les gens de la mairie de Calvi le savent et nous aident énormément. Donc, c'est énormément de travail. On va réfléchir à une tente qui nous mettent à l'abri de l'eau, puisque voilà, on va, voilà, il y a plein de réflexions à avoir. Voilà, on a des gens qui se sont affirmés pendant le tournoi dans l'organisation. Je pense à monsieur Turcot qui a géré les juges de ligne, qui a géré les ramasseurs. Sur le tournoi de Strasbourg où j'étais, il n'y a rien de comparable, tous les gens sont payés. Chez nous, tout le monde est bénévole.
C'est ça, voilà, qui est beau.
C'est ça qui fait la force, voilà, peut-être, de ton tournoi aussi.
C'est ça qui est magnifique. C'est ça qui fait la réussite du tournoi. Quand les gens viennent chez vous, j'ai vu l'arbitre de la finale, puisqu'il arbitre à Strasbourg, il m'a dit, c'est le plus beau tournoi que j'ai fait en France. Voilà. Parce qu'il y a une chaleur humaine, et cette chaleur, on la transmettait à tous les gens qui viennent. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on essaie de continuer comme ça. Et puis, Calvi, c'est un spot du tennis. Et on est en train d'en faire un spot du tennis en France, un spot du tennis en Corse. Puisque vous le savez comme moi, après demain, auront lieu les championnats de Corse de tennis. Moi, je suis très, très content que le tournoi serve à lancer la saison. Et puis, la mairie nous a aidés. On a refait des cours qui sont pratiquement neufs. On a un grillage neuf. Et les gens, vous allez avoir 250 compétiteurs qui vont venir pendant 4-5 jours à Calvi. Et c'est grâce à Calvi. Et puis, c'est grâce au tournoi aussi parce que le club, il est magnifique. Voilà.
Jean. Donc, c'est le plus beau des compliments qu'on puisse te faire, c'est ce qu'a dit ce juge arbitre. On va en terminer là pour cette petite interview. On te remercie. On te souhaite, on souhaite, oui, bien évidemment, on les dise, hein, là, oui, qu'on, oui, se retrouve l'année prochaine.
Ouais.
Et Jean.
On va se retrouver vite, on va se retrouver en septembre. Parce que moi, je veux que dès septembre, on commence à faire monter la sauce. La date est importante cette année.
C'est la reprise de l'émission, c'est très bien.
Encore, parce qu'on était en vacances scolaires, hein.
Et oui.
On va essayer de voir ce qu'on peut faire, parce que les vacances scolaires, c'est important pour le public, c'est important,
pour monter la sauce, c'était pas le dernier.
C'est important,
donc,
pour les ramasseurs. Voilà. Donc, on saura tout ça en septembre, après avoir travaillé. Et je vais à Roland-Garros la semaine prochaine, j'aurai une réunion de travail avec le tennis professionnel, et puis voilà, en tout cas, moi je voudrais remercier vraiment, vraiment, vraiment tous les gens qui nous ont aidés. C'est, c'est énorme. À un moment donné, on a une mayonnaise qui prend, et puis la mayonnaise, elle est pas mauvaise du tout. Donc écoutez, moi, c'est grâce à tous les amis qu'on a sur Cavi, voilà.
Bravo pour ce compliment. Jean, ouais, rendez-vous Jean. Est pris, donc ouais. Mois de septembre pour septembre. La rentrée.
Allez, Jean, on se retrouvera tous les deux sur le parking du tennis, comme d'habitude. Hein.
Bon vol. En plein hiver, quand il fait froid.
Exactement.
Fois, je me fais pas attendre. On mesurera le parking qui fait chaque année la même taille, mais qu'on mesure chaque année pour être sûr.
Exactement. Voilà, hein. Que tout passe.
Là, vous recevez mon ami Jean Prunette. Hein.
Voilà.
Allez, exactement. Posez les questions lentement, parce que Jean, il faut qu'il comprenne. Hein,
hein. On lui passera le message. Ouais.
Ça va, Jean. Allez, on t'embrasse. Gros bisous.
Salut,
Jean.
Ciao. Merci.
Voilà pour cette interview en direct sur RCC. Alors, Pierre, Jo et Jean, on va faire une pause.
Allez, courte pause.
Dans quelques instants. Juste vous dire que mercredi 24 mai à 10h30, je reçois Jo Albertine qui viendra nous parler justement d'un championnat de Corse.
De Corse qui débute jeudi. Voilà. Exactement.
Super.
Le tennis club de Calvi est donc l'endroit où tout ça va se jouer.
Super événement d'ailleurs.
Foot de sport sur RCC avec Zilia, l'eau minérale de Corse. Foot de sport. Allez, on poursuit avec Jean Prunet, le prochain invité.
Alors, quelle joie et quel immense honneur de recevoir Jean Prunet au micro de RCC. Jean, bonsoir.
Oui, bonjour. Ah ouais, l'honneur il est pour moi, hein, je vais vous avouer que...
Ah, nous,
on a trop des rambalagnes.
Parce que si on fait la radio, enfin, bon, je parle aussi pour moi, mais c'est parce que quand on était un peu plus jeune et qu'il n'y avait pas les matchs du Sporting à la télé, en deuxième division, groupe A, on écoutait la radio. Et voilà comment on arrive à faire de la radio quelques années plus tard.
Dire à peine à vieux Joël Anke.
Vous nous avez fait vibrer sur tous les matchs du Sporting. Donc justement, pour faire la transition... vous qui êtes maintenant sur Facebook, live du club, donc vous avez vu tous les matchs du Sporting, donc c'était un peu notre débat de tous les lundis soirs. On a vu que on a eu en fait un Sporting un peu en deux vitesses, on va dire, hein. La première où il se cherchait un petit peu jusqu'à la Coupe du Monde, hein, où on était tous inquiets, même là dans le studio, on se demandait si on allait arriver à se sauver ou pas. Et il y a eu la deuxième vitesse, par contre,
le Sporting post Coupe du Monde,
voilà, qui a été
dès la reprise,
qui a été excellent, où ils nous ont fait vibrer et on est reparti un peu de l'avant. Et d'ailleurs, on a vu la ferveur même au niveau des supporters.
Oui, c'est le constat, il est évident sur ces deux parties. Bon, après, ça peut s'expliquer par le fait que le Sporting avait changé pas mal de joueurs. Qui se sont révélés par la suite. On pense à Van den Kerkhoff, à Ndiaye, à Tavares. Après est arrivé Capit Joko, Florian Bonner. Et voilà, comme on dit, le temps que la mayonnaise prenne, le temps que prenne que Régis Brouard fasse passer ses messages et mette en place ce qu'il avait envie de faire. C'est vrai que ça peut prendre parfois un peu de temps. Ça en a peut-être pris un peu plus sans doute que l'entraîneur lui-même l'aurait souhaité, mais c'est vrai qu'il y a eu cette perte de points en début de saison, quelques matchs ratés qui à l'arrivée nous coûte cher, parce que c'est vrai que le Sporting aurait pu, sur ce qu'il a montré en deuxième partie de saison, se mêler à la lutte pour la montée en Ligue 1. Malheureusement, il n'y a pas les barrages cette année, il n'y en aura pas non plus l'année prochaine. Donc là, sur deux saisons, ça tombe mal. Mais ça, on le dit aujourd'hui après coup. Si en début de saison, on avait annoncé un Sporting dans les 4-5 premiers, je crois qu'on n'aurait pas fait la fine bouche de dire oui, on part pour cet objectif. Et si on finit 4e ou 5e, ça sera extraordinaire. Bah. Voilà. Bah, il faut pas oublier, à chaque fois, on le répète, qu'il y a 2 ans, le Sporting était en national, que c'est un des plus petits budgets. Qui a eu un changement d'entraîneur dans le courant de la saison dernière, qui a expliqué aussi un petit retard. Mais bon, Régis Brouard a prouvé ses qualités-là. Le club a fini 12e, est allé en quart de finale de Coupe de France. Donc déjà, la première demi-saison ou deux tiers de saison de Régis Brouard était un succès. Et celle-là, elle est encore plus.
Alors c'est vrai qu'on l'a reçu, hein, le coach du Sporting aussi.
Avant Sochaux.
Avant Sochaux, on avait passé un très bon moment. Et effectivement, avant la Coupe du Monde, je disais à John, qui est un supporter, mais vous savez, les supporters avec les œillères, en fait, où je disais, mais John...
Oui, il faut tout gagner.
Voilà, il faut qu'on monte, il faut qu'on gagne la Coupe de France.
Non. Ah, et je disais, à chaque fois qu'on me demande qu'est-ce qu'on fait comme résultat, je dis très peu qu'on va gagner. Je suis toujours...
Non, je dis pas ça. Je dis que
allez-y.
Tu étais très exigeant au mois d'octobre et qu'on te disait, attends, laisse voir... un coach qui arrive comme ça, des joueurs qui étaient blessés, qui arrivent au Sporting et qu'il faut relancer. Oui, tu étais inquiet,
Pour ton club.
Voilà, mais tu es le supporter chauvin, mais... et qui l'entraîneur, il doit arriver au Sporting et faire monter la Ligue 1 et gagner la Ligue des Champions.
L'objectif, c'était le maintien. Hein,
oui. Moi, j'ai une question par rapport à vous, Jean. Est-ce qu'on arrive facilement à dissocier le métier de journaliste et celui de supporter? Parce qu'on sait que vous êtes supporter à fond les ballons, que dans la manière de commenter les matchs, on sent aussi le supporter qui commente. Mais est-ce que c'est pas compliqué d'être moi, quelquefois j'entends le penalty, c'est un scandale. Et moi, à la radio, je deviens fou. On se fait encore voler. Et après, quand je regarde les images,
contre nous, là.
Oui. Après, quand je regarde les images, je dis
dans
bon.
Les matchs contre Pau, il y en a eu deux. J'ai pas crié au scandale.
Non. Mais bon.
Mais parce qu'on jouait plus rien.
C'était trop évident.
Non, pas sur ce match-là, mais sur d'autres. Bon, ça me fait sourire.
Ah, mais d'autres, c'était un scandale.
Oui. Mais des fois, est-ce que cet excès, on se dit pas. Ah, j'ai trop exagéré sur le commentaire, ou finalement on se dit oh, et puis c'est comme ça et pas autrement.
Genre non, des fois ça m'est arrivé de me dire j'aurais pu dire autre chose ou rester plus calme sur certains moments, parfois mi casem près, parce qu'il y a des moments et on connaît tous ce que représente le Sporting par rapport au continent et la difficulté qu'a le Sporting par rapport au terrain adverse, par rapport aux supporters adverses, enfin toute l'image que véhicule le Sporting et derrière lui la Corse en général. On n'est pas toujours très bien accueilli, on est toujours vu d'un très mauvais œil. Bon, sur l'arbitrage, je pense que, voilà, sans exagérer, il y a plus de contre nous que de pour nous. Enfin, c'est très tard. Ou d'arbitrage normal, j'allais dire. Le fait qu'on soit... Je regarde cette année... On a même critiqué le Sporting sur le fait que parfois il a raté des matchs, parfois il n'y avait pas d'engagement, et Somo, Léon Fagelonunde, ils auraient dû se battre, etc. Sauf que quand vous regardez le classement des cartons jaunes et rouges cumulés, le Sporting est en tête. Alors qu'on n'a pas l'impression du tout que c'est une équipe de casseurs, de gens qui taclent, on a vu pire par le passé. Mais voilà, et quand vous parlez avec Régis Broard, je ne sais pas si vous lui avez posé la question, mais voilà, les joueurs, les entraîneurs qui viennent du continent, ils ont cette image aussi. Et puis après, quand ils sont ici, au bout d'un an ou deux, ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Donc ça peut parfois me faire disjoncter, comme tout bon supporter, c'est vrai.
C'est ce qui nous fait plaisir.
Le journaliste devrait être en retrait, mais... On est journaliste corse, on est journaliste en Corse, on suit le Sporting. Je vais pas commenter ou crier sur des buts de Metz ou de Bordeaux ou autrefois de l'OM ou du Paris Saint-Germain, mais les journalistes des autres régions et des autres radios locales, quand j'étais RCFM, ils font pareil, ils commentent pour leur équipe et j'allais dire qu'au niveau régional, tout le monde est un peu chauvin. Enfin, tous les journalistes qui suivent leur équipe n'ont qu'un souhait, c'est comme les supporters que leur équipe gagne et monte le plus haut. Bon, après on m'a gagné un peu, après parfois on en fait trop, mais c'est fait exprès aussi. Bon, voilà, il y a un peu le jeu de la magagne.
Ouais. Moi, je dirais pour ma part, et je pense que ceux qui sont avec moi dans le studio et ceux qui nous écoutent, ne changez rien parce que on vous écoute pour ça.
À mon âge, je fais changer.
Voilà, ne changez rien, nous on se régale en tout cas. Alors par contre, je vais rebondir sur ce qu'on a discuté avec le coach, justement, vers la réception de Sochaux. On disait que il y avait quand même des joueurs et d'équipes adverses, hein, quand ils marquaient, je pense qu'ils jouent un peu sur le fait qu'on ait le sang chaud sur tous les supporters de la tribune Est. Et ils viennent narguer, alors que on disait
sur la provocation.
Voilà, sous la provocation. Et on disait au coach que, il y a 20 ans en arrière, les mecs qui marquaient à Fouriagne, presque ils s'excusaient d'avoir marqué. Je pense que ça a changé tout ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez commenté les matchs du Sporting cette année?
Non, mais ce qui a changé, c'est au jeu, les caméras sur tous les stades. Maintenant, évidemment, depuis que les matchs sont retransmis, il y a les caméras, il y a les réseaux sociaux. Donc les joueurs de la réputation de Fourian, ils en jouent pour eux, pour que le Sporting tombe dans le piège et ses supporters avec. Hein, c'est facile. Et voilà, s'ils peuvent faire arrêter un match pour cause de jet de projectiles ou d'envahissement de terrain, ils en profiteront. Heureusement, c'est pas la majorité, mais il y en a quelques-uns qui, voilà, soit ils sont déjà venus, ils connaissent, soit il y a la réputation et tout. Et ben, c'est un peu le jeu aussi, ils allument. Bon, il y a d'autres stades aussi où ça se fait. Après, les réactions des supporters, elles sont moins virulentes que la nôtre avec Essimo Guzzi. Mais c'est vrai qu'il y en a qui en jouent avec ça, c'est clair. Y compris sur les poteaux de corner. Hein, quand ils vont tirer des corners, il y en a qui traînent un peu des pieds, qui avant la poche, dès qu'ils voient un papier, ils appellent l'arbitre, ils sortent en disant « Ah, je peux pas tirer. » Bah, c'est le jeu. Mais heureusement que c'est pas le propre de tout le monde. Hein.
Jean,
c'est assez mineur.
Quand on voit la quatrième place du Sporting à deux journées de la fin, avec encore une victoire à Pau, 6-2, que je pense que personne n'attendait, est-ce qu'on n'a pas un peu les boules? Vous avez vu tous les matchs cette année. Est-ce qu'on se dit pas, finalement, cette saison, on aurait pu faire quelque chose de très grand, quoi?
Oui, après coup, oui, évidemment. Le Sporting est quatrième, il pourra pas descendre plus bas que cinquième, ça c'est voilà, il sera dans le top 5 et c'est quelque chose d'énorme. Et malheureusement, il n'y a pas les barrages, parce que la saison aurait pu continuer et on sait jamais ce qui serait arrivé derrière. Alors c'est vrai qu'après coup, parce que quand l'équipe part pour le maintien, que la première partie, le premier tiers est moyen, on se dit bon, si on a le maintien, c'est pas mal. Après, ben, l'ambition, l'appétit vient en mangeant, et même pour eux, pour les joueurs, pour l'entraîneur, évidemment, ils ont essayé de voir plus haut. On y a cru pendant une quinzaine de jours, hein, jusqu'au match de Bordeaux.
Ce que j'allais dire,
mais
c'est le tournant.
Bon, on peut pas négliger ce qui a été fait. Le Sporting, s'il arrive à accrocher ne fût-ce qu'un point contre le Havre, qui va quand même être champion de France ou gagner, il va passer la barre des 60 points. Et je regardais pour préparer cette émission, 60 points, c'est le meilleur score du Sporting en Ligue 2 derrière Frédéric Hans lorsqu'il a assuré la montée et le titre de champion de France. Donc voilà, c'est énorme ce que vient de faire cette équipe, sortie de nulle part. Ce que vient de faire le coach, c'est une équipe qui est classée quatrième pour les points à domicile, septième pour les points à l'extérieur. Voilà, ils ont été très réguliers. C'est une des meilleures équipes avec les trois de tête sur tous ces matchs depuis, on l'a dit, depuis le début décembre. C'est vrai que c'est quelque chose de magnifique, quoi. Après, il faut pas toujours, oui, si on avait su, oui, si on avait pu, mais bon, il y a des regrets ailleurs, hein. Il y a des regrets à Sochaux, il y a des regrets à Metz qui ont d'autres budgets, d'autres ambitions que les nôtres. Voilà. Ce qui est embêtant, c'est que on peut jamais prédire, on pourrait toujours se dire, sur la base de cette année, on peut viser plus haut l'année prochaine, mais on sait très bien que d'une année à l'autre, on est mal jeté sa phare. Il y a des joueurs qui risquent de partir, il y en a d'autres qui arrivent, on ne sait pas comment ça va tourner. La Ligue 2 va être costaud l'année prochaine avec les quatre descentes de Ligue 1, plus Metz qui va rester, Metz ou Bordeaux, Saint-Étienne. Enfin, l'année prochaine, il va être encore plus difficile de faire des projections sur le championnat.
Tout à fait. Puis c'est le lot de en plus pour le Sporting de redémarrer. On ne sait jamais. Dans sur quel pied
quand on a des petits budgets, c'est toujours les interrogations. Alors s'ils arrivent à garder les joueurs qu'il y a cette année, ça peut servir de base. Si on arrive à garder, parce que bon, le coach, là, il a vraiment pris la saison au départ. Il a vraiment constitué, au moins pour les deux tiers, son équipe. Et pratiquement tous les joueurs qu'il a fait venir, ils ont tous confirmé le projet est confirmé, la volonté qu'avait le Sporting de les faire venir. Vandenkerkhoff, grosse surprise. Tavares, sur le côté gauche. Ndiaye, prêté par Lyon. Donc, les trois défenseurs, là, ont été parmi les éléments les plus prépondérants. Après, s'est ajouté Bonner, pendant le mercato d'hiver. Même Johan Bailly, lorsqu'il est rentré, il a marqué des coups. Capijoko, venu de National, il a montré ce qu'il savait faire. Donc, c'est vrai que tous les transferts ont été plus qu'intéressants. La mise en place et le dispositif de jeu de Régis Brouard, il a fait ses preuves. On peut toujours critiquer une composition d'équipe, une tactique, un remplacement. Mais bon, les coachs, quand même, savent où ils vont et savent qu'ils ont entre les mains et comment ils peuvent faire tourner ça. Donc c'est vrai que voilà, si on n'est pas à 100% de positif, on est quand même pas loin du 90 côté Sporting. Oui. Et même dans la façon de faire tourner l'équipe, de mettre des joueurs sur la touche tout en les préservant mais en les gardant, en les faisant revenir toujours concentrés, toujours dans le projet. Je pense à Santé, qui à un moment donné n'a pas joué, puis il est bien revenu, à Senati, à Palin, qui voilà, qui jouait pas pendant de nombreux mois et qui a bien fini, même en marquant un but à Pau, voir Kevin Chou, enfin je vois, tout ça fait que entre les recrutements, ce qui a été capable de tirer du collectif et de certains joueurs, Régis Brouard, je pense que là, il a quand même fait ses preuves depuis qu'il est arrivé au Sporting. Alors, sur cet aspect-là des choses.
Alors, je vais juste ouvrir une petite parenthèse pour la saison prochaine, en m'amusant à regarder un peu sur les sites référents. Il y aurait, ça restera confirmé, parce que il y aurait un barrage d'accession entre la Ligue 2 et la Ligue 1, c'est-à-dire les deux descentes plus le 16e qui serait barragiste de Ligue 1, avec la même composante des barragistes Ligue 2, c'est-à-dire 3e, 4e, 5e, mais il n'y aurait pas des barrages en termes de descente de Ligue 2 à National.
Ouais, non, ouais, c'est ça, c'est vrai, c'est bien de rectifier. Voilà. Pour la descente, il y aura 4 descentes, ça c'est clair.
Et oui, parce qu'ils vont rééquilibrer la Ligue 2 aussi.
Ils pourraient réintroduire les barrages. Normalement, il devrait y avoir des barrages.
Il devrait.
On ne sait pas si c'est que le 3e ou si c'est
voilà.
Le 4-5.
Moi, sur ce que je vois, ça resterait sur le même tant format. Mieux. Bon. Donc,
mais bon, il y a du monde.
Et oui, il y a du monde. Mais de toute façon, en restreignant les championnats.
Le seul problème, c'est que voilà, cette année, on les aurait joués sur.
Ah oui, ça.
L'année prochaine, on ne sait
mais,
pas.
Mais d'une manière plus large, quand le club descend quand on ne va pas retracer ce que l'on sait déjà, mais quand le club repart en National 3, qu'on ne sait pas sur quoi. Comment ça va se faire, sur quel pied on va danser. Quand vous décidez de quand même continuer de commenter les matchs, à ce moment-là, vous vous dites que on va encore vivre des moments extraordinaires, que on commente, mais je sais pas où je vais. Est-ce que je vais être suivi? Est-ce qu'on va avoir le même engouement? Et que après, oui, au final, il y a la chronologie qui fait que l'engouement revient, comme s'il était presque jamais parti, mais de votre point de vue à vous, de votre point de vue juste de journaliste, de se dire bon, je vais encore replonger là-dedans, National 3, comment ça va se passer?
Ouais, moi, à titre personnel, moi j'ai vécu un tsunami émotionnel, parce que en dehors du Sporting, je revenais de la Coupe du Monde au Brésil pour Radio France à l'époque.
Oui, oui. C'est vrai.
Donc j'étais au Maracana à la finale, voilà, sur le toit du monde, et je me suis retrouvé un an et demi après au Pontet,
en Doom,
à Onlazondou, enfin je sais même oublier les noms, Péquet.
Oui, il y avait en Doom.
En Doom, et voilà. Donc là, ça a été, là c'était difficile de, enfin le choc pour repartir, c'était pas simple.
Alors je m'amusais à regarder, je vous coupe, hein, on parle d'En Doom. Ouais. En Doom, pour la petite histoire, ils sont relégués en Régional 2 en Provence, hein, comme quoi des fois, non mais c'est quand même assez compliqué de faire.
Sur Cascade, ils nous ont fait perdre une année.
Voilà, oui. Voilà. C'est ce que je
voulais
dire.
Mais bon, après, le tsunami, il a continué avec la première année en National 3, puisque Sporting est parti avec personne.
Eh oui, oui.
Enfin, personne, c'est un gros mot, parce qu'il est parti avec des jeunes, il est parti avec ce qu'il avait, ce qui lui restait, avec un Stéphane Rossi qui s'est engagé dans ce projet-là pour reconstruire. Et donc la première année de N3, bon, ça a été quelque chose, hein, les matchs ont été très très difficiles. Commenter de la nationale, nationale 3, nationale 2, quand il n'y a pas de rythme, quand il n'y a pas d'enchaînement, enfin c'était
d'ambiance.
Délicat. Donc une deuxième année de N3, je me souviens avoir dit à l'époque aux dirigeants, si on a une troisième en N3, moi j'arrête, parce que c'était compliqué. Et ils ont réussi à remonter, et bon, voilà, ils remontent, on enchaîne, et puis après on commence à y croire, oui, la N2, ça s'annonce bien. Le fait que ça monte d'une année sur l'autre, ça a permis de tenir, pas que pour moi à titre individuel, mais pour les supporters aussi qui ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour que le club reparte. Et même eux, ils étaient dans l'attente. Et voilà, le fait que tout le monde y ait cru, qu'il y ait eu surtout beaucoup de soutien populaire derrière le Sporting, ça a boosté des joueurs amateurs, ça en a fait venir quelques-uns. Et c'est vrai que le Sporting, encore une fois, est revenu de nulle part. Et on se rend compte que 5-6 ans après, on est en train maintenant, vous le disiez, de regretter les quelques points perdus, parce que sinon on serait en Ligue 1. Ce qui aurait été encore un miracle. Quoi.
Alors, moi, Jean, je vais revenir sur cette saison. Hein. On parlera du présent. Après le passé, ça nous a servi à avancer.
Oui, je vais voir les mots bio.
Voilà. Alors, moi, j'aime bien mettre en valeur les entraîneurs qu'on critique. Vous l'avez dit très justement, juste avant. C'est eux qui vivent avec leur groupe. C'est eux qui savent qui est bon, qui est pas bon. Mais j'ai trouvé un Régis Brouard dans la gestion du groupe. On a vu que les remplaçants, quand ils rentraient, ben ils étaient concernés par ce qu'ils faisaient. Alors que c'est vrai que des fois il y a le remplaçant qui tire un peu la gueule, il rentre, il a pas envie. Et on voit que il a su maintenir quand même son groupe. C'est pas évident, hein. Bon, on appelle ça du management. Mais un supporter chevronné comme John à côté, je trouve que c'est vrai que. Il a su quand même un Benjamin Santé, dit qu'à un moment donné a été sifflé sur le terrain. Il a quand même su le préserver. Il est rentré, il a marqué, il a été décisif sur certains matchs. Je trouve que au niveau management, Régis Brouard, c'est quand même quelque chose de pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais, non, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, et sur les depuis un an et demi qu'il est là, bah il a fait ses preuves. Hein. Il a mis le Sporting 12e la saison dernière et quart de finaliste de Coupe de France. C'est pas rien pour avoir pris une équipe en cours. C'était pas son équipe à proprement parler. Voilà, il n'avait pas, parce qu'il a, chaque entraîneur a son dispositif de jeu, sa tactique et tout, et en fonction il prend les hommes qui conviennent à ceux qu'il veut mettre en place. Donc il a dû composer l'année dernière et il a plus que bien composé. Et puis là, il a mis son équipe en place, il est allé chercher des joueurs et tout ce qu'il a fait venir ont été positifs et le résultat, il est là. Dans les résultats, dans la manière de jouer, même s'il y a eu des ratés sur quelques matchs, mais bon, qui n'en a pas. Il y a qu'à regarder Sochaux sur ses 6 défaites consécutives alors qu'il jouait le titre. Donc non, Brouard est là. Et puis bon, moi, après, le fait de pouvoir le voir d'un peu plus près ou le côtoyer... De premier abord comme ça, c'est vrai qu'il peut paraître un peu fermé, un peu isolé, un peu loin de tout, pas très communicatif de manière générale dans le quotidien, j'allais dire. Après, évidemment, avec son équipe et ses joueurs, c'est autre chose. Mais pour ceux que j'ai pu voir ou observer, à défaut de parler avec lui quotidiennement, un, c'est un homme engagé. Alors quand il prend quelque chose, il va au bout, ça c'est clair. Il transige pas avec rien, ni avec les hommes, ni avec les objectifs. Il transige pas avec la discipline, la rigueur. Il ramène tout le temps les joueurs au côté professionnel, etc. Dès qu'il s'en écarte un peu, et il est joueur. Ça, il y a qu'à le regarder le long de la ligne de touche. Alors quand on a un match à la télé, on voit que le jeu, on voit pas les coachs. Bon, moi je regarde. Il est tout le temps debout, il est tout le temps à marcher, à courir, à faire des gestes, à replacer les siens, à crier s'il y a une passe ratée, à s'énerver si ça relance pas comme il veut. Voilà, il a la gagne en lui, il veut gagner tout le temps. Il a même dit, moi avec le Sporting, j'ai horreur de perdre.
Ça, il est pire
que John en studio. et non, voilà, après, il est perfectionniste à fond.
C'est un compétiteur.
Alors, pour les uns, c'est un défaut. Pour d'autres, c'est des qualités, mais perfectionniste, ça il est... vous sortez d'un match comme Pau, juste un exemple. Bastia gagne 6-2, ce qui est énorme. Il y a des super buts, il y a le triplé de Magri, etc. On fait l'interview en fin de match et on lui dit voilà, c'était super match, etc. Le Sporting a montré qu'il est toujours dans le projet, il veut rien lâcher jusqu'au bout. Il dit oui, mais on a loupé le premier quart d'heure.
Oui, c'est la première chose qu'il dit, c'est ça.
Il faut le faire. Et il dit heureusement que Placide arrête le penalty parce que sinon je sais pas.
Ouais, mais
au lieu de se dire voilà, c'était une super victoire, en deuxième mi-temps on a tout éclaté, il commence d'abord parce qu'il n'a pas marché. Et il est tout le temps comme ça qu'en fait.
Oui, il a raison parce que aujourd'hui, enfin ce week-end ça a marché, autant le week-end prochain ça marche pas, Et donc, il veut rappeler un peu à ses joueurs que ils sont passés près quand même. Bon, après, ils ont déroulé, mais
il va jamais dans, il tombe jamais dans le. On est les plus forts, on est les plus beaux, même sur un match ou la facilité.
Il n'y a pas de suffisance avec lui. Il faut être à 100%. Il a raison. Et d'ailleurs,
la prestation de Niort, je me rappelle de ses de son commentaire d'après match. Il était pas content. Hein. C'est.
Ouais, mais c'est bien. Enfin voilà. Oui. Moi, je voulais mettre un peu en valeur le coach qu'il est. Et...
Jean, pour conclure cette émission, cette interview. Avec vous, est-ce qu'il est prévu quelque chose de spécial de ce match contre le Havre qui sera le dernier de la saison à Fouriagne ou rien du tout finalement?
Oui, bon, moi je suis pas dans, je suis pas dirigeant de club ni dans les, non, ce que je sais c'est oui ça, mais je crois que ça a même été annoncé, c'est bien de le dire, c'est que le Sporting, vu la saison qu'il a faite, vu les productions d'ensemble des joueurs. Et le soutien populaire qu'il y a eu, puisque à Fouriagne, on a dépassé à plusieurs reprises la barre des 10 000, ce qui est énorme et qui fait une des plus grosses affluences de Ligue 2. Là aussi, on doit être dans le top 5. Évidemment qu'en plus, en accueillant le leader, le Havre, une équipe qui vient de perdre un match sur les 15 derniers seulement, qui ce soir peut être officiellement en Ligue 1, qui va peut-être être champion de France. Voilà, on pouvait pas rêver de plus belle affiche. Pour ce dernier match à Fouriagne que ça, avec l'objectif pour le Sporting de la quatrième place, de faire tomber à nouveau le leader. Et ils en parlaient après le match, ils sont tous à fond dedans. Bon, Ebrouard, Nebarlem, il va remonter tout ça comme il faut parce que il a envie de là aussi de marquer lui aussi les esprits. Il va faire beau, le public va être en nombre, voilà. Donc il va y avoir, oui, il va y avoir des choses. Il va y avoir une fan zone autour du stade, du côté de la tribune sud, comme ça a eu lieu contre Bordeaux. Il y aura un groupe, il y aura des jeux. Voilà, peut-être que les joueurs, d'ailleurs, ça je sais pas, je m'avance, mais comme contre Bordeaux ça avait été fait, peut-être que les joueurs viendront en fan zone avant le match. Je sais pas si ça se fera, mais au contact du public, pourquoi pas. Et puis évidemment à la fin du match, quoi qu'il se passe. Il y aura sans doute un hommage, une communion avec le public.
Ouais, c'est vrai, Jean, que la saison du Sporting, le club en général, hein, une très belle quatrième place, et surtout le plus important, c'était que la réserve puisse accéder à ce niveau national 3.
Ça aussi. C'est une super année. Ouais,
voilà, donc l'ensemble du Sporting, hein, qui revient encore, on le disait il y a quelques minutes, du néant, s'est reconstruit petit à petit. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour la Corse, tant mieux pour les supporters du Sporting. Hein. C'est beau d'avoir une réserve en N3.
Puis continue à nous faire vibrer.
Genre, voilà. Et nous on continuera à regarder les matchs avec le son de Jean Prouned.
Parce qu'on nous donnait des frissons sur le but.
Parce que Prime, on n'en peut plus. Non, Prime.
Parce que le but de Bordeaux, je l'ai regardé, re-regardé en vous écoutant, et c'était beau quand même.
C'est sûr que bon, c'est. Au niveau national, ils sont de nulle part et ils commandent toutes les équipes. Donc, ça ne peut pas être la même approche ou la même façon de commenter. Voilà. Non, ils aiment obligat des Gumenta Kougour et eux, c'est juste avec la tête, quoi, avec un match comme un autre, que ce soit Bastia, Angers, Niort, Sochaux. Ils sont toujours dans le même cas de figure. Bon, mais c'est normal, hein, on peut pas les critiquer ou leur reprocher ça.
C'est
la règle. Et puis pour la saison prochaine, il y aura peut-être vous parler d'écouter. Peut-être que vous m'entendrez mieux l'année prochaine.
Tant mieux alors.
Là, on attend encore quelques jours. Il y aura peut-être une bonne nouvelle.
Ça va alors.
D'ici la fin juin.
Bon. Écoutez, Jean, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Arrivederci et
in onda.
Allez, Forza Bastia et
continuez comme ça, Jean.
Merci beaucoup. Jean.
Allez, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Je ferai un tour à RCC en passant cet
été. Volontiers.
Super. Merci, ciao, Jean.
Allez, merci. À bientôt.
Merci. Ciao. Après.
On est en direct avec Patrick Sandrone, FC Bahreïn, vainqueur de la Coupe de Corse ce samedi contre une belle équipe de la Casinca. Patrick, bonsoir.
Bonsoir.
Alors,
bonsoir tout le monde.
Bonsoir Patrick.
Salut Pat.
Alors on a eu Jean pour le tennis, on a eu Jean Prounet pour le Sporting, et maintenant on a Patrick Sandrone pour le FC Bahreïn. Donc Patrick, bravo. Félicitations.
Merci.
Félicitations, c'est beau pour la Bahreïn, pour Ilorus et Calvi. Hein, cette fusion qui est née de Ilorus et Calvi.
Match compliqué, donc la victoire n'en est que plus belle.
Une grande fierté, Pierre. Alors, ramener la coupe en Malagne.
Bravo, bravo au staff, hein, dont tu fais partie, bien évidemment. C'est, on le sait, hein, le fruit du travail de toute la saison. C'est pas évident parce que vous n'êtes pas encore sauvés, hein. Et c'est ça, si j'ai bien lu, si j'ai bien vu, il manquerait quelques petits points pour assurer mathématiquement
le maintien
en N3. Donc, ouais. Pat, c'était quand même pas évident de rencontrer une équipe de Kazinc qui, elle, avait terminé son championnat, qui était sauvée, donc qui était vraiment à 200% contre vous.
Tout à fait. Donc, effectivement, on est dans une situation où jouer une finale une finale, il faut en jouer plusieurs, mais une finale de Coupe de Corse avec un match derrière contre le Canet qui risque d'être prépondérant pour le maintien. C'est vrai que c'est jamais évident de préparer une finale de Corse, parce que une finale, tu sais comme moi qu'il faut les garçons à 100%. Donc on a toujours peur des cartons, on a toujours peur des blessures. Mais écoute, c'est vrai que bon, on a joué un match engagé, dans un très bon état d'esprit, une belle finale de Coupe de Corse.
Grosse affluence, donc, le stade était plein.
Ils reviennent deux fois.
800 personnes.
Je tiens à souligner quand même la bonne tenue de la Kazinc là-dessus. Et on a réussi physiquement. Après, ils ont baissé un petit peu dans les prolongations. Physiquement, on a réussi à faire la différence. Mais effectivement, on a encore une finale à jouer ce week-end. Plus,
Finale ce week-end et au pire la finale contre l'OM, c'est ça.
Ouais.
En fait, il reste deux matchs, Patrick. C'est ça.
Deux matchs.
Actuellement, on est confronté à une équipe, le Canet, qui joue son dernier match. Donc effectivement, cette équipe joue le dernier match et vient chez nous, qui elle mathématiquement n'est pas sauvée puisqu'elle est derrière nous. Alors pour la laisser derrière nous, il faut pas qu'on perde contre cette équipe.
Un match nul serait pas un mauvais résultat.
Nul, quoi qu'il arrive, elle. Le dernier match, il devait jouer contre le GFCA, donc cette équipe ne peut plus nous dépasser.
D'accord.
Et effectivement, mathématiquement, on serait sauvé. Donc un nul contre le Canet, on serait sauvé. Pas forcément en perdant contre le Canet et en allant chercher un match à l'OM, qui est le dernier match, ça nous sauverait. Le nul contre le Canet nous sauverait.
D'accord.
Mais la défaite peut être difficile parce qu'à ce moment-là, il nous faudrait peut-être.
Il faut que tu ailles gagner après.
Tu sais très bien que sur un match
donc,
comme ça.
Le match de l'année. C'est le Canet samedi.
Tu sais très bien que sur un match comme ça, tu peux pas préparer le nul pour le jouer.
Pour pas perdre ce rencontre.
Oui. Et Patrick, justement, en termes d'effectifs, là, tu es au complet pour ce match contre le Canet. Tu n'as pas eu de blessé lors de la finale.
On a un blessé, donc on a le Canet qui n'a pas pu participer à la finale parce qu'il avait un petit problème à la cuisse. On n'a pas voulu prendre de risque pour qu'il soit disponible ce week-end. On a un joueur qui est suspendu. Après, tout le monde est sur le pont et tous les garçons sont focus sur l'objectif, hein, parce que ça reste quand même l'objectif majeur du club.
Bien sûr.
Parce que ça
ferait fausse note de gagner la Coupe de Corse et de descendre dans l'échelon inférieur. Et voilà, donc ça peut être un week-end fantastique pour la Balagne et pour la FC Balagne, parce qu'effectivement on joue aussi dimanche le match du titre en R3. On a la chance de pouvoir remonter avec les jeunes du club, remonter en
R2. C'est contre qui, Patrick, ce match dimanche?
C'est contre qui? On joue le match donc, contre Cap Corse.
Ah, Cap Corse, d'accord.
Contre le Cap Corse, on reçoit le Cap Corse. Donc en gagnant, on est champion. Donc on pourrait préparer tout ça. Donc on peut ce week-end, on peut vraiment faire la fête.
Donc
on peut vraiment faire la fête.
Par rapport à cette finale, parce que je vais faire une comparaison, moi, à toute proportion gardée, évidemment. Quand on voit que le FC Nantes perd la finale de la Coupe de France et se casse la gueule en championnat et qui vont sûrement descendre, selon moi, avec cette victoire en Coupe de Corse, ça te met pareil dans des dispositions qui seraient plus aptes à te maintenir pour le championnat du national.
Bien sûr, je suis d'accord avec toi. C'est sûr qu'il vaut mieux jouer ce match en ayant gagné la finale que de l'avoir perdu, parce que là peut-être que moralement les joueurs ça aurait été un peu compliqué. Mais les joueurs étaient ils sont focus, ils savent que ce week-end ils vont jouer la survie du club et moi je suis assez confiant et le staff est assez confiant, les dirigeants aussi, pour qu'on aille chercher au minimum ce match nul pour se sauver.
Bon, Patrick, écoute, merci beaucoup pour
cette
interview. Et merde pour ce week-end.
Ouais,
juste, Patrick, à quelle heure ce match samedi?
Qui est du monde au stade.
Alors,
samedi à 18h.
À 18h, voilà.
Voilà.
Si,
voilà. Rendez-vous est pris.
Le rendez-vous est pris, auditeur, cher auditeur, chère auditrice.
Tous les balanins, hein.
Tous les balanins. Tout le monde, hein. Samedi, 18h, Jacques Ambrogi. Ouais. Donc, le FC Balan, il recevra le Canet Rocheville, c'est ça?
C'est ça.
Allez, bon. Une ou deux boîtes et ça passera.
Patrick, il faut que tu rechausses les crampons.
Remets les crampons, voilà, prends ton numéro 6 et c'est parti.
Ça va le faire.
Allez, salut, on vous embrasse, allez, merci. Merde. Ciao Patrick.
Ciao, merci, ciao. Au revoir.
Voilà pour cette interview consacrée donc à ce très beau titre du FC.
Ça y est là.
RCC, ah, tu
je vous rappelle que c'est la dernière saison.
Ouais, c'est pour ça. Il fait chaud dans les studios. Ouais.
Bah, heureusement qu'on s'est hydraté avec la Zilia.
Ah, il y avait les buées.
Zilia.
Alors, Anto,
attends, écoutez le bruit de la Zilia.
Non, c'est pas celui-là.
C'est
pas Zilia. Jo, il a tombé les lunettes parce qu'il y avait la buée.
Oh, la buée.
J'ai jamais vu la buée au printemps, moi.
Parce que c'est normal, tu bois trop d'eau, toi. Tu as mis un peu de menthe dedans.
Le matin, c'est humide, c'est pour ça.
Allez, Anto, une petite pause.
D'accord.
30 secondes, et puis on revient. Et on revient sur nos résultats. L1, L2, N1,
R1.
L1.
L1, c'est vieux. C'est Ligue 1, maintenant.
Eh ben, là, L1.
Enfin, je veux dire, à l'époque, on l'appelait la L1. C'est pour ça que
Ah, d'accord.
C'est Ligue 1.
Ligue 1, pardon. Voilà.
Foot de sport. On est à la Zilia ce soir, évidemment, pour la dernière, c'est normal. Hein.
Exactement.
Toujours sportif, toujours clair, nickel, quoi.
Exactement, mon cher Anto.
C'est la dernière partie.
C'est la dernière partie, allez. Donc nous allons...
Avant les vacances, les gars.
Eh oui.
Enfin, les vacances.
Les vacances.
Donc, on
pour
va...
Pour la radio, pas pour le boulot.
On va revenir sur les résultats Ligue 1. Donc, défaite de l'ACA 5-0 contre Rennes. Avec une équipe ACIste remaniée où il y avait pas mal de jeunes, Joe.
Ouais, écoute,
prépare la Ligue 2. Hein.
Je sais même pas. Je pense qu'il y a tellement un écart entre l'ACA et toutes les autres équipes, pas que Rennes. Hein. Bon, alors d'aujourd'hui,
il y avait beaucoup de blessés.
Ouais, il a fait tourner. Je pense que tu as raison. Il a en conférence de presse, il a dit qu'il préparait certains jeunes.
Hein. Regarde Angers, ce que fait depuis quelques matchs comme ça.
Tu prends 4 pions à domicile à la mi-temps. Hein. Tu en prends 5, tu en prends 4 à la mi-temps.
Tu as 10 buts en 2 matchs.
C'est...
La force de l'année dernière en défense, c'est la plus mauvaise défense du championnat. Wow. Donc ils essaient d'intégrer des jeunes pour savoir s'ils peuvent avoir le niveau Ligue 2 pour avoir un beau championnat. Parce que ça va être compliqué.
Parce que c'est vrai que là, on avait Jean Prounet tout à l'heure. C'est vrai que l'année prochaine, la Ligue 2, elle va être vachement relevée, les gars.
Bah, tu as encore 4 descentes. Après... C'est encore compliqué. Regarde le championnat de cette année. C'est serré. Si tu loupes le bon credo, tu peux être en difficulté rapidement.
Ouais, très rapidement.
Valenciennes, ce soir, en jouant le Havre, il le disait... Le Havre peut
40 points je crois, ils ont 39, ils sont premiers relégables.
Attention que Valenciennes a des problèmes financiers.
Oui, mais il y a un paquet d'équipes.
Non, mais tout le monde a des problèmes financiers. Sochaux, Bordeaux, certains vont pouvoir combler leur passif par la vente de joueurs et malgré ça, certains autres équipes ne pourront pas. Il va y avoir des gros soucis pour certains clubs. Ligue 1, Ligue 2.
Non, moi juste pour revenir, j'ai vu donc la conférence d'après-match du coach de l'ACA. Il a dit que c'était un calvaire. Là, le fait d'être, en fait, démobilisé,
c'est fini.
Il a dit,
c'est
un
très
calvaire.
Très dur.
Il a dit, il faut vite que ça s'arrête parce que je pense que même à l'entraînement, il doit y avoir, tu vois.
Ouais, l'ambiance, elle doit pas être bonne.
Tu sais qu'il te reste 5-6 matchs, 7 matchs à jouer, tu es condamné. Je veux dire, ça doit être horrible.
Ces erreurs de recrutement, alors, je jette pas la pierre dessus, mais on en a parlé, quand ils ont pris Belaïli.
Feu de paille, hein.
Le joueur de Brest, on savait que c'était compliqué. J'avais l'impression que c'était le Sporting qui recrutait parce que par un moment donné aussi le Sporting prenait des joueurs
parce qu'il fallait prendre des joueurs.
C'était coup de poker là, mais c'est trop délicat.
Mais vous voyez, est-ce que avec bon on le disait tout à l'heure hein, avec le recul, avec des si, avec des mais machin, mais quand il y a un club comme Brest qui joue le maintien, donc ils se sont sauvés, hein.
C'est officiel
mathématiquement, mais justement au mois de décembre lorsqu'ils vendent Belaïli un concurrent direct, l'ACA, on peut se poser des questions, les gars. Si demain, Le mec, il est vraiment bon. S'il est dans l'état d'esprit, je pense que Brest n'aurait pas laissé. Avec le recul, maintenant, si on analyse bien la chose. Ouais, mais au final,
il vaut mieux laisser partir que mettre la poutre.
Non, mais exactement.
Mais qu'est-ce qu'on a dit à l'époque? On a dit quand même Johan Caval qui est en charge du recrutement à la CA. Bon, s'ils le prennent, c'est qu'ils vont arriver à le canaliser. C'est que on cherchait le côté positif. Et on a failli avoir
qui a été positif au départ.
Au départ.
Ah, au départ, dit, oui. Mais feu de paille. C'est ce que je te dis.
Mais après, il y a des problèmes extrasportifs. Ouais,
je pense.
Pas présenté à l'entraînement. Pas revenu de vacances comme il fallait revenir. Le recrutement de départ qui s'est arrivé infructueux. Parce que tu as des joueurs comme Amouma.
Ils ont deux matchs de fou, je crois, là. C'est, alors, ils vont à Lens.
Non, mais Marseille, Lens. Je te dis.
Marseille, Lens, là.
Bon, Lens, bon, là-bas, bon, Marseille, ici. Bon, c'est pas bon.
Ouais. Je veux dire, pour finir la saison,
c'est compliqué.
Tu peux prendre
encore 10 buts en deux matchs.
Les deux équipes jouent quelque chose, donc demain.
Ah oui.
Tu dis une équipe au milieu de tableau, bon, allez.
Ça joue la deuxième place, voilà. Les deux. Bon, Lens, en cas de victoire, sont assurés d'être deuxième.
Mais je pense que c'est fini.
Voilà.
C'est à Bollard. C'est terminé.
Tu sens c'est compliqué.
Ah, c'est fini.
Moi, j'ai de la peine parce que l'ACA, alors historiquement parlant, c'est la première fois que l'ACA fait l'ascenseur après leur montée dans leur histoire. Ils se sont toujours maintenus au moins la première année. Là, c'est la première fois. Ça va être compliqué pour l'année prochaine, même s'ils ont une prime de rétrogradation qui leur permettra d'assurer financièrement.
Moi, je pense que c'est anticipé, ça.
Oui, ça, pour ça, ça a toujours été sérieux.
Ouais, si on descend, c'est pas grave.
Non.
On est monté. Mais
après, ils ont pas fait de folie, hein.
Non, mais par contre, sur quelle ossature ils vont s'appuyer?
C'est ça le problème.
Et il y en a pas. Le souci va être là.
Le problème, il est là.
Ils peuvent pas s'appuyer sur une ossature. Ni avec des jeunes, ils attendent la confirmation de niveau de certains joueurs. On a des joueurs cadres qui vont partir, qui sont de la maison. Je pense à Vincent Marquette.
Il va faire rentrer des sous pour le club, c'est sûr.
Oui, mais puis même ce joueur-là, il aspire à jouer à un niveau un peu plus intéressant. Donc, la reconstruction va être compliquée pour la CA.
Donc voilà pour le club de fin de cette Ligue 1, hein, pour ce soir, cette dernière émission. Nous qui voyons la CA se sauver largement avant la Coupe du Monde,
c'est planté.
Ouais, on s'est planté complètement.
On aussi qu'on n'a pas été top.
On n'a pas été bon.
Non, mais en ressenti, on n'était pas loin de la vérité parce qu'on s'inquiétait déjà de la CA avec la victoire.
Ouais, au retour de la Coupe du Monde.
Au retour contre Angers, alors qu'Angers était en pleine déconfiniture totale.
Exactement.
Et on s'est dit, il y a
au retour, je crois que c'était le dernier match avant la Coupe du Monde.
C'est possible.
C'était le dernier match avant la Coupe du Monde. Donc voilà, donc pour ce qui est des résultats, donc la CA, défaite sur son terrain, 5-0 contre Rennes. Brest qui a mathématiquement obtenu son maintien contre Clermont.
Paris champion à 99%.
2-1. Paris champion qui a battu Auxerre 2-1. Lens qui a battu 3-1
à Lorient.
Lorient, alors qu'ils étaient menés 1-0. 3 Strasbourg, notre ami Freddy Antonetti.
Hein, il manque un point.
Ouais, enfin c'est 99,9.
Il manque un point, il a le goal à rage avec lui.
Voilà, il a le verrage avec lui. Je pense que
non, ils sont cuits. Qui? Les Canaries.
Pour moi, non, ils sont pas cuits. Ils ont un point de retard sur Auxerre.
Ouais, ça va se jouer entre Nantes et Auxerre.
Enfin, voilà. Vous battez pas Montpellier qui est en roue libre chez toi pour
Nantes
pour
va
le maintien.
Nantes va à Lille.
Mais tu rigoles. Ils sont cuits. Je te le dis.
Lille qui joue l'UEFA.
Je te le dis, ils sont cuits.
Derzakarian, il n'avait pas eu un problème avec Nantes.
Bien sûr.
Il n'a pas de problème avec Nantes.
D'ailleurs, je vais te dire, moi qui suis amateur de Paris, machin, tout ça. Je l'ai complètement zappé parce que j'ai pensé à exactement ce que tu as dit. J'ai dit, Desarcard, il a une dent contre...
Et puis il a dit en conférence.
Exactement.
Je ne ferai de cadeau à personne et encore moins.
J'ai dit,
contre Nantes.
Lui, la motivation a tout
d'ailleurs, seul. Nantes a perdu Camboiré en cours de route.
Ils l'ont
licencié. Il est vincé. Donc voilà, et Reims, Angers, 2-2. Et Nice-Toulouse, 0-0. Alors là aussi, Nice, avec Digard, hein, ça a été un peu, là aussi... un feu de paille.
Ouais,
hein,
c'est fini. La défaite en conférence ligue. Contre Bâle a fait mal au groupe.
Ben, ça a été terminé.
Je pense qu'il ne sera plus. Donc voilà. Donc le Paris Saint-Germain leader, hein, 84 points, en route pour un nouveau titre.
11e.
Voilà. Lens 2e avec Marseille 3e. Je pense que Lens, avec ce qu'ils ont produit, finiront et ils le méritent.
Second
parce que Marseille finalement.
Lens Ajaccio.
N'a
pour
pas
que
fait
Lens ne soit pas second, il faut qu'il perde à domicile contre Ajaccio. On n'y a plus à discuter là.
John, même dans la saison, Lens a fait des beaux résultats contre les premiers. Marseille n'a rien fait contre
Lens
les premiers.
A gagné sa place de deuxième actuel contre Marseille.
Oui, et puis ils ont battu le Paris Saint-Germain à domicile. Oui, Marseille,
grosse,
ils ont
grosse saison. À rappeler qu'il y a pas que de Bastille là-bas. Hein. Oui. Jean-Willet, Cahuzac, Lilian Alis adjoint.
Lilian Alis adjoint.
Il y avait
Gaffour qui était à Lens.
Qui maintenant non, à Nice.
Guizot. Gaffour, c'est celui qui jouait à l'époque
oui,
chez nous.
Oui, c'est ça. Je suis planté.
Donc, voilà, pour ce qui est du classement. Donc, la CA avant-dernier, 23 points. Les carottes sont cuites et archi-cuites. Ouais. Voilà pour ce qui est de la Ligue 1. Donc, Lens ira à Ajaccio pour la 37e.
Bonsoir, Ajaccio.
Reçoit Ajaccio pour la 37e journée de ce championnat samedi 27 mai et l'ACA recevra l'Olympique de Marseille pour la dernière journée donc
qui devait être un match de gala
ouais. ça sera la fin. Ouais. Donc la Ligue 2 on en a parlé les gars avec le Sporting hein. Avec, donc on va juger voilà belle
quand même
bon feu d'artifice
je le répète hein, je suis surpris par le résultat je pensais que Pau qui joue sa survie en Ligue 2 aller s'imposer voire faire match nul ne pas perdre
mais j'ai regarde été les surpris regarde Bastia, les résultats,
tu vois comme quoi souvent et Pierre peut te le dire parce qu'il a joué au ballon plus que nous en tout cas plus haut niveau les matchs sans enjeu c'est ça parle dans tous les sens et Bastia j'ai vu le coach donc il dit nous on joue en roue libre on n'a rien à perdre
c'est fini après
c'est un régal en fait
tu joues pas avec le frein à main tu joues tu t'amuses
pour l'équipe pour les joueurs c'est un régal
trop de pression tu l'as vu l'attaquant de
non honnêtement j'ai pas vu ce match
non je l'ai pas vu
un tank le mec
j'ai pas vu le match
c'est fou en surpoids quand on disait Bocconi en surpoids lui tu le regardais il était plus qu'en surpoids
j'ai pas vu le match après bon je suis quand même surpris parce que bon quand tu joues ta survie à domicile ouais à l'extérieur bon
trop de pression
mais à domicile bon ils sont pas sauvés Pau pas du tout
non Pau pas du tout sauvé donc le Sporting
Quatrième
avec 59 points. Donc Le Havre, leader de ce championnat, à 71 points, ils peuvent être champions de France Ligue 2 dès ce soir avec la réception de Valenciennes. Deuxième Bordeaux, 69 points. Troisième Metz, 66 points.
Ouais, je pense que c'est fait. Bordeaux va monter en Ligue 1.
Voilà.
Oui, Metz. C'est
là, Guingamp, voilà, ils ont perdu 20 matchs nuls. Donc,
par contre, en bas de classement, rien n'est joué, les gars. Si ce n'est Niort qui sont déjà en national.
Nîmes aussi.
En national. Et par contre, ça va se jouer entre Valenciennes, 18e, Laval, 17e, Pau, 16e, Dijon, 15e,
Annecy,
14e. Allez, Rodez.
Rodez,
il leur manque quand même quelques petits points. Voilà.
Une victoire, je pense. Sur les
donc,
deux
nuls ou.
C'est quoi le prochain match d'Edier Santini, d'ailleurs?
Alors, Rodez, Pau, les gars. Prochaine journée, voilà. Nous avons Annecy-Bordeaux, Caen-Saint-Etienne, Paris-FC, Guingamp-Niort, Laval-Nîmes, Quevilly-Rouen-Amiens, Rodez-Pau, Sporting Le Havre, Sochaux-Metz et Valenciennes-Grenoble. Voilà pour la prochaine journée.
D'ailleurs on salue Didier qui a liké notamment la publication. Bonsoir Didier,
fidèle, on t'embrasse et on espère que tu prendras ces points pour te sauver.
Oui.
Ouais. Tu nous avais dit que la machine allait se mettre en route, elle s'est mise en route, il a fait quand même une belle série. Hein.
Quand on l'a eu, il nous avait dit ça et de suite il a enchaîné en fait.
Ouais.
Après la donc, c'est pour l'élimination
ça
en coupe.
Exactement. L'œil d'un coach, hein, quand il vit avec son groupe, il sent les choses, il le sentait que ça allait payer, tant mieux pour lui, il lui manque quelques points.
Et j'ai Lélé aussi le sentait.
Ouais. Ouais. Donc voilà pour ce qui est de la Ligue 2 au niveau national, les gars.
Allez, Borgo a battu le
récent. Alors là, les gars.
Est-ce que tu aurais parié un euro sur la victoire de Borgo?
Jamais de la vie.
Victoire, maîtrise, rousse
3-0.
Enfin, qu'est-ce qui s'est passé là?
Moi je pense que, je sais pas, mais bon, enfin.
Ils sont premiers tout le long du championnat presque.
Ouais.
Ils jouent le dernier, ils gagnent, ils sont quasiment assurés
et même
de monter.
Même nul.
Mais oui, même nul. Allez, tu te loupes le match, tu fais nul.
D'ailleurs, tu joues chez toi. Là, je pense qu'ils sont cuits parce que Concarneau a gagné. J'ai vu qu'il y avait Boutra qui jouait d'ailleurs.
Exactement. Donc
et Dunkerque. Donc pour l'instant, c'est deux premiers.
Les résultats, les gars. Borgo-Martigues, 3-0. Châteauroux-Restart. Le Restart a gagné 1-0 à Châteauroux. Cholet, Paris 13, Atlético, 1-0 pour Cholet. Concarneau bat Bourg-en-Bresse, 3-2 dans un match. Je l'ai regardé, le multiplex.
Moi aussi.
Ça a été,
c'est sympa d'ailleurs.
Ouais, c'était un beau multiplex.
Sur le site de la Fédé.
Dernière minute, il marque Concarneau. Dunkerque-Orléans, 3-1. Nancy-le-Puy. Alors, Nancy sont mal, on va voir au classement, 2-1 pour le Puy. Saint-Brieuc-Sedan, 2-1 pour Saint-Brieuc. Versailles-Avranches, 0-3, Villefranche-Le Mans 1-0. Au classement, Concarneau et Dunkerque se partagent les premières places avec 59 points. Troisième Restart, 57 points. Quatrième Martigues, 57 points. Ferme la marche, donc à partir du 13e, Nancy, 40 points. Bourg-en-Bresse, 14e, 39 points. Saint-Brieuc, 15e avec 38 points. Le Puy, 16e avec 34 points. Paris Atlético, 17e avec 31. Et Borgo, qui ferme la marche avec 25 points, sont relégués en National 2 d'ores et déjà. Le Paris 13 Atlético et le Borgo FC. Voilà pour ce qui est de la
N2, ça jouait pas.
N2, ça
N3
jouait
non
pas.
Plus.
N3 non plus. Donc, la
R1 régionale... non plus.
R1 non plus. Le Sporting champion.
Oui.
Et, descendent en R2, donc le Nebbio et le Gallia Lucian à la réserve. Donc, la R2.
Alors, on y va. Donc, R2. Bonifacio a battu la Casine, 4-2. La SPV a battu les Ticassoirés, 3-0. Costa Verde a battu Santa Barata, 6-0. L'Étoile a battu Pievailota, 2-0. Et Corté, a validé son accession à R1 en battant Antizanti, 5-1. Voilà pour la R2. Qu'est-ce
donc, au classement, le Sud champion.
Le Sud avec Corté.
Le Sud champion. Corté, accède en R1. Et Costa Verde, qui est troisième, qui est en attente du maintien du FC Balagne et, avec le possible maintien du FC Balagne, la Costa Verde pourra accéder en R1.
OK. On enchaîne avec la R3. Le Cap Corse a battu Vico 3-1. Le FC Balagne est allé l'emporter à Bocognano 4-1. Montigel a battu Furiani 3-0. Et l'Orient et le Gallia ont fait match nul 3-partout. Mon cher Pierre, le classement, donc Patrick nous l'a dit, si le FC Balagne l'emporte dimanche contre le Cap Corse, ils seront donc champions de R3 et ils vont donc accéder à la R2.
Voilà pour ce qui est du Régional 3. Régional 4, il y avait deux matchs de mise à jour, Joe.
Loum l'a emporté contre l'Ognolo 3-0. A souligner que Loum fait quand même une belle saison pour sa première en R4. Et Pontelletti et Vetsagne ont fait donc 0-0.
Voilà. Il y avait un match de challenge entre R4. Le FC Loupine est venu à bout de l'ECB 2-1. Le FC Loupine qui fait une belle saison, qui seront en finale du challenge d'encouragement, challenge à Bestra, contre Bonifacio la semaine prochaine.
C'est donc ça. Voilà. Et pour conclure, avons les amis du Crabe 15 qui se sont imposés, je vais vous dire contre
31.
Qui, hein. Oui, 31-17 contre Ugine Albertville. Et, ils seront opposés. Alors, je sais pas à quel stade ils sont.
Si j'ai pas c'est les huitièmes.
C'était les 16e.
Voilà. Et là, ils sont en huitième de finale. Le tirage n'est pas encore été effectué.
Ça y est? Contre l'équipe qui a battu le RC Portovec.
D'accord.
Donc, contre Milas. Voilà, d'accord. C'est un club du sud-ouest, je crois, il me
donc,
semble.
Donc, toujours, ça se passe toujours sur le continent. Il n'y aura pas de match à Loum. Donc, bonne chance à nos amis du Crabe 15. Voilà. Voilà, les gars, pour cette émission. Merci beaucoup.
C'était sympa.
On s'est régalé. On s'est passé une belle saison. J'espère que les auditeurs et les auditrices aussi ont pris du plaisir.
On aura peut-être des surprises à la rentrée, non?
Oui.
Peut-être.
On va travailler dessus.
Une grosse surprise pour la rentrée.
C'est
alors
vrai.
Oui, il faudra attendre un petit peu pour, pour l'annonce.
C'est bien. Donc, il faut rester fidèle à RCC et à notre émission de sport à tous les trois. Peut-être d'autres peut-être d'autres chroniqueurs viendront nous rejoindre.
Déjà, exactement.
Nous, peut-être.
Il y a de fortes chances qu'on se revoie à la rentrée.
Ah oui.
Exactement.
Avec un format amélioré.
Vous serez
toujours.
De retour. Vous
on en reparlera.
On fait de l'entraînement.
On va travailler dessus.
Nous aussi.
On va travailler
dessus. On aura passé un bel été.
En tout cas, c'était sympa, les gars.
Au soleil. On s'est régalé.
Bonne année.
Ouais, ça a été,
ça nous a fait du bien.
On a eu de beaux invités.
De beaux invités.
On a eu
des belles interviews.
Ouais. On a eu vraiment du beau monde.
Ouais. Pour une première, c'est pas mal, hein.
C'est
notre,
ça. Oui.
Petite radio locale, RCC. On en est vraiment contents. Écoute, dans la rue, on nous le dit. On a un bon ressenti. Continuons comme ça. Et longue vie à
Foot de Sport. Vive le sport.
Voilà. Et encore bravo au FC Balagne, hein.
Bravo FC Balagne
et à l'ensemble des acteurs du sport en Balagne.
Exactement.
Pour certains, ça, c'est
et
pas facile.
Et belle réussite de la soirée de RCC,
le
6 mai.
40 ans, c'est
bravo.
Vrai.
Ça. Bravo, belle réussite.
Et RCC, Tchigampem.
On se retrouve en septembre.
Allez, vive le sport.
À tous.
Allez, ciao.